RCF, il est 17h.
En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
Presque 15% de personnes obèses en France. C'est en tout cas ce que relève l'Agence sanitaire Santé publique France. Ajoutons que le surpoids et l'obésité n'ont cessé d'augmenter dans notre pays entre 1996 et 2017. Il reste bien sûr des facteurs de risque majeurs de maladies cardiovasculaires, risque majeur évidemment de diabète et même de certains cancers ou de décès prématurés. Alors la faute à qui ? Aux écrans, à la sédentarité sans doute. Mais peut-on légitimement se demander pourquoi l'obésité est-elle devenue la maladie du siècle ? Réflexion dans cette émission Quête de sens sur Radio Notre-Dame et RCF. J'ai la joie de recevoir pour en parler deux spécialistes, Guillaume Pourchet. Bonjour monsieur, bonjour Guillaume Pourchet.
Bonjour.
Je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes chirurgien viscéral et digestif. Alors ça fait pas très sexy comme ça, mais il en faut.
Oui, c'est sûr.
Ça fait un peu peur quand on voit ce terme.
C'est un très beau métier.
Non, parce que, exactement, et merci d'être là. Vous avez publié cet ouvrage, L'obésité, maladie du siècle, ni une faute, ni une fatalité, aux éditions IXO. Merci d'être là. Patrick Coulier est également avec nous. Bonjour Patrick Coulier. Vous êtes docteur en pharmacie, spécialisé de votre côté en écologie digestive. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Vous avez publié de votre côté « Maman, j'ai rétréci mon microbiote », tout comprendre pourquoi les maladies chroniques de civilisation explosent. Hein. Quel microbiote allons-nous laisser à nos enfants ? Vous ne vous êtes pas trompé d'émission. On va voir à quel point ça peut justement être corrélé à notre sujet du jour. Eh bien, c'est parti. Je vous propose d'entamer cette émission autour de cette question de l'obésité et du surpoids. J'aimerais d'abord qu'on définisse qu'est-ce que c'est la différence entre les deux, Guillaume Pourchet.
Alors, c'est très simple à faire, puisqu'il suffit de calculer son indice de masse corporelle.
D'accord. Donc,
c'est un chiffre, et j'appelle vraiment tous les auditeurs, et plus largement, à faire ce calcul, qui se fait très facilement. Donc, c'est le poids divisé par la taille, multiplié par elle-même. Et ça vous permet d'avoir un chiffre. Alors, on est dans la normalité, ce qui veut pas dire grand-chose, on le sait bien, mais entre 20 et 25, on est en situation de surpoids entre 25 et 30.
Ok.
Et on devient en situation d'obésité dès 30. Alors, il y a plusieurs grades d'obésité, hein, ça c'est très important aussi de les définir. Donc, au-dessus de 35, on est en stade 2, donc c'est-à-dire qu'on a une obésité qui est déjà sévère. Et c'est vraiment un cap très important. Si dans sa vie, on a fait cet indice de masse corporelle, plus de 35, il faut savoir qu'on est en situation de maladie qui est déjà assez avancée et il ne faut pas hésiter à consulter un spécialiste, c'est très important. Au-dessus, c'est 40, c'est les obésités morbides. Alors, c'est un gros mot, hein, mais ça veut dire ce que ça veut dire. C'est une situation qui fait mourir, qui est reliée directement à la mort. Et être en situation d'obésité morbide, eh bien, c'est un danger pour sa vie.
Alors, nous n'avons pas de psy à cette table, mais en fait, vous allez faire office de psy tous les deux, messieurs. Guillaume Pourchet, je vous mets de la grosse pression, et Patrick Coulier, parce qu'il y a quand même du psychologique là-dedans. Je vous propose, à propos de cette histoire de mort dans cette conversation, Amélie Nothomb disait, dans son roman Une forme de vie, un corps obèse est-il vivant ? La seule preuve qu'il n'est pas mort, c'est qu'il grossit encore. C'est ça la logique de l'obésité. Il y a un peu de vrai là-dedans ou pas ? Justement, Patrick Coulier, pour vous.
Un peu peut-être, oui, pour l'aspect psychologique, mais ça reste une maladie. Donc, et puis Guillaume qui est là, lui, ouais, sauve des gens, donc c'est bien la preuve qu'ils sont toujours vivants, ouais, même avec des obésités extrêmes. Et donc les interventions chirurgicales qui sont le stade ultime sont quand même sauvent des gens. Quoi.
Alors moi oui, allez-y.
Oui, c'est une phrase qui en dit long parce que ça dit assez violemment que la situation d'obésité, le corps obèse, est reliée à la non-humanité. C'est-à-dire qu'on n'existe plus véritablement dans la société.
Socialement, quoi.
Il y a une stigmatisation, c'est terrible le vécu de ces patients. Et ça, il faut le rappeler. Et je trouve qu'Amélie Nothomb le.
D'autant plus que ce n'est pas forcément de leur faute, on va le voir.
Ah, c'est absolument pas de leur faute. C'est ni une faute, ni une fatalité. Ça, c'est très important. Ça me permet de rappeler l'obésité. On a défini en chiffres, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais Il faut surtout rappeler que c'est une maladie chronique, grave, c'est-à-dire c'est une maladie dont on ne peut pas guérir et qui fait mourir, comme
dont
je l'ai évoqué.
Dont on ne peut pas guérir.
Non, on ne peut pas guérir, c'est-à-dire les maladies chroniques, c'est des maladies que vous avez en vous, qu'on a au final un peu reçues, donc ce n'est pas une maladie du comportement, ça c'est très important de le rappeler. Ce n'est pas parce que, comme vous l'avez annoncé dans votre édito, que c'est à cause de la sédentarité, de la malbouffe, qu'on est en obèse.
Ça c'est plus le surpoids à la limite qui est généré parfois par ça.
Le surpoids est directement relié effectivement à ces attitudes-là, d'accord, à ce comportement-là, qui est un facteur aggravant d'une situation.
Okay.
Donc la prise de poids, forcément, elle est reliée à une consommation
on
de
mange
mauvaise
plus,
qualité,
on grossit, on fait pas de sport,
à une activité physique qui est diminuée, ouais, mais aussi au manque de sommeil. Le fait de mal dormir, ça fait grossir. Et le quatrième facteur aggravant, c'est la gestion des émotions, donc le stress, les compulsions, tous ces éléments-là qui sont pas simples, parce que manger, c'est un antidépresseur assez incroyable, on l'a tous utilisé, et c'est tant mieux.
Aïe, 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 c'est pas faux, c'est malheureusement. Pas faux.
Bon, il faut aussi rappeler le tout dernier facteur aggravant qui, à mon sens, est sous-estimé, c'est la discrimination. Et donc, on le voit dans notre société, le regard, les idées plaquées, les préjugés qu'on va avoir sur une personne en souffrance, on le regarde, on le voit, qui rentre en famille chez McDo pour ne pas, en se disant, ah oui, quand même, tout ça, il pourrait éviter ça. Mais en fait, on va tous chez McDo dans sa vie, et c'est pas ça qui fait sa maladie.
Attendez, juste comprendre ce que vous avez dit là, parce que c'est quand même, pour moi, un scoop, hein, personnellement, Guillaume Pourchet, l'obésité, on ne peut pas en guérir, ça veut dire qu'on est obèse, c'est ça que ça
Alors,
veut dire ?
La maladie installée obésité, donc là, on sait pas le surpoids, hein, très clairement, c'est déjà au moins un indice de masse corporelle à 30, et puis un peu plus grave, même dès 35, on peut pas s'en sortir.
C'est-à-dire
que son corps est programmé pour mettre en réserve très fort, pour parler simplement.
D'accord.
Et alors, quand on va avoir des facteurs aggravants, on monte en gravité.
Si
vous ne faites pas de
salade,
sport,
ouais,
même en mangeant de la salade et même en faisant de l'activité physique, quand on a cette maladie, eh bien, on s'en sort pas. On reste en situation de maladie. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Même après une opération, puisque pour les très grandes
obésités,
c'est ce
que vous pratiquez donc vous, c'est ce que vous racontez
pratique,
dans votre livre,
c'est le traitement de la maladie obésité qui est aussi lui stigmatisé. Hein, c'est une honte de se faire opérer. C'est une solution de facilité et ça c'est faux.
Parce on pense à l'anneau gastrique. Hein. C'est ça ?
Alors, on pense, la chirurgie de l'obésité, c'est assez vaste, elle a une histoire, elle a débuté dans les années 50, mais les trois grandes techniques qui sont utilisées aujourd'hui dans le monde et en France, il y a l'anneau, mais qui est quasiment plus utilisé parce que, voilà, pas tellement efficace, pas bien adapté à la maladie, à mon sens. Donc, c'est une méthode qui a été mise sur le côté aujourd'hui, et justement mise sur le côté. Mais vous avez deux autres méthodes qui sont ce qu'on appelle la sleeve gastrectomie, c'est-à-dire qu'on transforme l'estomac en tube en enlevant une partie de l'estomac. Et la deuxième méthode, c'est le bypass.
Bypass,
on fait un court-circuit entre l'estomac et l'intestin. Donc, c'est-à-dire que, vous savez, on a à peu près 6 mètres d'intestin qui va digérer dans son ventre, ce qui est très important, et on va le raccourcir d'environ 2 mètres. Donc, on fait en sorte que vous digériez moins bien, si vous voulez.
Patrick Houllier, qu'est-ce que vous dites de tout ça, toutes ces méthodes ?
Les méthodes, je sais pas, je suis pas chirurgien, c'est plus sur l'installation de la maladie ou le microbiote.
C'est la première
peut
fois
être
que j'entends ça, hein.
Intéressant. Oui, mais tout est lié, en fait, par la biologie. Parce que là, vous avez décrit une montée de l'obésité au cours des dernières décennies. On peut faire une courbe croisée, c'est l'objet du livre, de la baisse de la diversité du microbiote. Quand je dis que le microbiote est rétréci, ça veut dire que depuis 50 ans, on a perdu 50% de diversité de notre microbiote.
C'est quoi le microbiote de façon extrêmement simple pour que je comprenne, c'est-à-dire ?
C'est une population très diverse de bactéries, on va dire, pour commencer, qui vivent à l'intérieur de nos intestins, alors de notre bouche jusqu'à un mètre plus bas. Et c'est une évolution, une coévolution qu'on a fait au cours des temps, hein, depuis l'Homo sapiens, l'Homo erectus, etc. Et donc, on a créé une symbiose. Symbiose, ça veut dire ensemble pour la vie. Nous sommes donc, chaque humain est un petit écosystème, lui plus son microbiote. Et ce microbiote, au cours de l'évolution, il a pris des fonctions qui nous sont indispensables. Donc, pour simplifier, la digestion.
D'accord.
Notamment la digestion des sucres, on va peut-être faire ce qu'on appelle les fibres, l'immunité et le développement cérébral. Il y a un axe entre les intestins et le cerveau. On parle souvent de l'intestin second cerveau.
Absolument. Voilà. Et souvent, on fait des raccourcis en disant que quand on mange, par exemple, mal ou trop de sucre, etc., on tombe plus facilement malade,
mais
c'est vert, pas... C'est pas prouvé. Vous faites un peu la tronche.
Si.
Non. C'est un équilibre.
Voilà. En vérité, c'est un équilibre.
Et la nutrition, c'est la médecine d'Hippocrate. Hein, donc, tout ce qui est de l'alimentation, c'est primordial. On se construit avec son alimentation, donc c'est très très important. Sur le microbiote aussi, c'est important de je vous l'ai dit, les facteurs aggravants. On en a un peu parlé tout à l'heure dans la maladie obésité, mais il faut aussi parler des causes. Et donc le microbiote fait partie des causes, assez clair. Le microbiote, c'est très complexe. Hein.
Parce que c'est un peu...
Et c'est une, aussi, il faut le rappeler, c'est une des deux grandes découvertes de la médecine moderne, qui a une approche finalement dynamique et d'échange. Le microbiote...
Avec un microbiote de départ.
On est avec un microbiote de départ qui, et qui évolue toute sa vie. Le microbiote aussi, il est très personnel. C'est un peu comme son génome, hein. C'est unique le microbiote, parce que ça va se construire en fonction, si vous êtes né par une césarienne ou par les voies naturelles, vous n'avez pas le même profil de microbiote.
D'accord. Vaut mieux naître évidemment par
voie naturelle. Non, pas de donner des recommandations. La vie, je crois qu'il ne faut pas juger. Très important. Et donc, le microbiote, c'est un phénomène et qui se construit donc, en fonction de ce que vous mangez, de qui vous embrassez. Dans une famille, on a souvent un microbiote très proche. Donc, vous voyez, c'est vraiment une sorte de... Moi, souvent, je dis c'est un miroir de soi-même ou une ombre. C'est quelque chose qui est avec vous. Il faut savoir que le microbiote, en fait, il est plus nombreux que vous-même. Il y a trois fois plus de bactéries dans son corps que de cellules. Donc, il y a un enjeu de collaboration qui est très, très fort et qui est quand même globalement positif.
Il faut en prendre soin.
Oui, on peut en prendre soin. Et surtout, on peut prendre l'exemple des fibres. Ça, je trouve que c'est assez parlant. Quand on mange, on va
des
dire
radis.
Équilibré. Non, c'est pas forcément...
On m'a toujours dit qu'il fallait manger des radis.
Mais les fibres, c'est... Quand on parle de fibres, en fait, on parle de sucre. Hein, les fibres, c'est l'équivalent de sucre complexe, hein, quand on parle de fibres pour l'alimentation.
C'est pas des bonbons, c'est des sucres complexes.
C'est des sucres complexes, voilà. Hein, donc, ce qu'on va pouvoir manger... Donc, si vous mangez équilibré, ces fibres, elles vont arriver au microbiote. Nous, on ne sait pas les digérer. On est incapable de les digérer. C'est le microbiote qui va les digérer. Donc, ce qu'on va appeler... On peut appeler ça le bon microbiote, on va dire. Et ce microbiote, il va envoyer des messages au cerveau. En dégradant les fibres, il fait des messagers, des hormones ou de l'influx électrique. Il envoie au cerveau en lui disant « ça, c'était bien, ça a été bien ». Et donc ça nous nourrit. Et puis, ça fait une bonne communication. Ça donne aussi l'effet de la satiété. Hein, lorsque vous avez mangé des fibres, ces bactéries elles disent « c'est bon, on a assez mangé, on arrête de manger ». Si vous mangez déséquilibré longtemps, on va dire, hein, par exemple de l'alimentation industrielle, vous allez donner beaucoup de calories, ce qu'on appelle des calories vides, des choses comme ça. D'accord. Et là, c'est d'autres bactéries qui vont manger ces calories-là. Et elles vont envoyer un message au cerveau aussi. Mais ce message, ça va être « c'est super bon ce que tu m'as envoyé ». C'est des fake news.
C'est vraiment comme ça que ça marche ?
Oui, c'est comme ça que ça marche.
C'est bien expliqué, en tout cas.
Et ça revient au cerveau, et ça dit au cerveau, mais c'est super bon ce que tu m'as envoyé.
Donc quand je m'enfile un paquet de Haribo, ce qui peut m'arriver,
voilà, ces bactéries-là...
Si ça arrive qu'une fois...
C'est pas grave.
Mon cerveau va être content sur le coup, mais...
Ça va aller, mais si vous mangez industriel, hein, des calories, ce qu'on dit des calories vides, c'est-à-dire qui n'ont pas de valeur nutritionnelle, les messages sont vrais, et donc, comme on a mangé des calories vides, on a nouveau faim, donc on remange, on grignote. Donc ça peut être des facteurs déclenchants liés au microbiote et liés à l'alimentation. Évidemment, il n'y a pas que ce facteur.
D'ailleurs, ça a été mis en évidence. Il y a des expériences scientifiques qui ont mis en relation l'obésité et le microbiote. C'est-à-dire que c'est une vraie cause cette maladie. Par exemple, c'était une expérience qui avait été faite chez la souris, des souris jumelles, donc les mêmes gènes. Une était obèse, l'autre non. Et on répétait l'expérience. On a greffé le microbiote de la grosse souris à la souris maigre. Et cette souris maigre, en 3 semaines, sans changer son alimentation, sans changer son activité physique, est devenue obèse. Alors l'inverse n'a pas marché, malheureusement.
C'est stupéfiant quand même, hein, comme expérience.
C'est stupéfiant, mais ça veut dire, c'est ce qu'on vient d'entendre, c'est un facteur très important, une véritable cause de la maladie. moi, je veux bien qu'on rebondisse aussi sur les autres causes, parce que il y a des causes qui sont très importantes. On l'a évoqué, le côté génétique et épigénétique, notamment. Donc ça, c'est un sujet immense.
C'est votre premier chapitre, les gènes et la transmission de la maladie. Voilà. Hein, ça se transmet d'abord.
C'est ça. Et ça, c'est un point très, très important parce que c'est une, aussi, je l'ai dit, c'est la deuxième grande découverte de la médecine moderne, l'épigénétisme. C'est-à-dire il faut voir le gène comme un livre et le côté épigénétique, c'est-à-dire que c'est à côté du gène, hein, littéralement, mais c'est des marque-pages qu'on met sur son gène, sur des séquences qui sont utiles à votre vie. Donc c'est l'épigénétisme, on le construit pendant sa vie. Un musicien, par exemple, il va sélectionner des fibres musculaires, donc ça passe par des protéines, donc ça passe par des gènes, et il va sélectionner les bons muscles qui lui permettent d'avoir un geste le plus raffiné, le plus en relation avec son exercice. Et ça, il va le mettre dans ses gènes. Il va mettre ses marque-pages dans ses gènes et il peut les transmettre. Donc, c'est assez passionnant. C'est-à-dire qu'il y a une transmission de l'acquis.
Ça, c'est prouvé.
C'est prouvé, il y a une transmission de l'acquis. Et la maladie obésité, elle passe par ces mécanismes-là. Ça pose des questions qui sont passionnantes. Hein, parce qu'on peut remonter à l'origine de l'humanité. L'enjeu de la vie d'un humain, c'est l'alimentation, c'est de se nourrir. C'est de pas mourir de famine. Et ça, on a tous probablement des marqueurs.
Ça fait partie de nous, quoi.
De nous, et tous les êtres humains peuvent, entre guillemets, être susceptibles de développer cette maladie obésité, peut-être. Donc, ça, c'est
des parents obèses, alors si je comprends bien ce que vous allez... Je fais exprès d'accuser le coup. Des parents obèses donnent forcément naissance à des enfants obèses ou pas?
C'est pas du tout aussi simple que ça, parce que c'est de l'épigénétisme. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des expériences aussi et des études scientifiques qui ont été prouvées. Donc, chez des mamans qui étaient en situation d'obésité et qui ont eu des enfants. Donc, on a pris des marqueurs épigénétiques de l'insulinorésistance. Donc, c'est relié au diabète et à l'obésité. Et on a vu qu'elles transmettaient à 100% ces marqueurs à leurs enfants. Quand ces mamans sont opérées et ont maigri, donc des opérations d'obésité et tout, et qu'elles ont un enfant, elles perdent des marqueurs déjà pour elles-mêmes, donc ça c'est passionnant, et elles transmettent seulement 30% des marqueurs à leurs enfants. Donc c'est quand même un peu vrai, c'est-à-dire que la tendance peut se transmettre, et je pense que c'est un des enjeux de l'évolution de l'obésité qui ne cesse de croître. Alors il y a les différentes causes qui interviennent, mais ça c'est un facteur très important, c'est-à-dire il faut soigner les personnes en situation malade parce que il y a un effet boule de neige, il y a un effet de transmission, et c'est probablement plus que le manque d'éducation ou la sédentarité le facteur qui explique l'évolution de la maladie.
Hasta que el cuerpo aguante sur Radio Notre-Dame et RCF. Dominique A, figurez-vous, à tout de suite.
Il fera tous les bars de la terre, il ira où on ne le connaît pas. Tanguera sur les fuseaux horaires, fera voyager sa gueule de bois. Il boira comme on part à la guerre, sans être sûr qu'on en reviendra. Il retrouvera partout un frère, à Shanghai, Séville ou Luanda. Il ira, 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 hasta que el cuerpo aguante. Il ira, 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 hasta que el cuerpo aguante, hasta que el cuerpo aguante. Il ne connaîtra pas le silence, autour de lui la nuit hurlera. Il tombera en pensant qu'il danse, et que tant que tout tourne, tout va. Il n'aura ni remords, ni regrets, ni personne quelque part pour l'attendre. Rien que le bonheur pris sur le fait, sans lendemain pour le lui reprendre. Il ira, 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 hasta que el cuerpo aguante. Il ira, 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 hasta que el cuerpo aguante, hasta que el cuerpo aguante. Tous les bars de la terre, prendra tous les verres qu'on lui tendra, roulera sur les deux hémisphères, va savoir où il se réveillera. Il promènera sur lui le parfum de quelqu'un dont ne lui reviendra ni la voix, ni le regard, ni rien.
et dans le premier pas rentrera. Il ira, 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 hasta que el cuerpo aguante. Il ira, 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 hasta que el cuerpo aguante. Il ira, 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 hasta que el cuerpo aguante. Il ira, 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 hasta que el cuerpo aguante.
Il ne connaîtra pas le silence, autour de lui la nuit hurlera. Il tombera en pensant qu'il danse, et que tant que tout tourne, tout va. Il n'aura ni remords, ni regrets, ni personne quelque part pour l'attendre. Rien que le bonheur pris sur le fait, sans lendemain pour le lui reprendre. Il fera tous les bars de la terre, prendra tous les verres qu'on lui tendra. Il fera voyager sa gueule de bois, il boira comme on part à la guerre. Sans être sûr qu'on en reviendra, sans être sûr.
Hasta que el cuerpo aguante, hasta que el cuerpo aguante.
Nous voilà de retour dans cette émission En quête de sens sur Radio Notre-Dame RCF. Pourquoi l'obésité est-elle devenue la maladie du siècle? Eh bien, pas du tout forcément pour les raisons que j'ai évoquées en introduction. Depuis le début de cette émission, Guillaume Pourchet, qui est chirurgien viscéral et digestif, qui vient avec son ouvrage L'obésité, maladie du siècle, ni une faute, ni une fatalité chez Ixo. Et puis Patrick Coulier, qui est docteur en pharmacie, spécialisé en écologie digestive, qui a écrit Maman, j'ai rétréci mon microbiote chez Librinova. Patrick Coulier, vous souhaitez rebondir sur ce qui a été dit, je pense, à propos justement du microbiote ou...
Oui, oui, on peut. D'abord, c'est l'épigénétique, c'est réversible, donc on peut quand même travailler dessus. Et ce qui est intéressant, c'est la transmission par l'épigénétique. Ouais. Et un autre mécanisme qui se fait pendant la grossesse, qui est la programmation fœtale. Ça, c'est assez intéressant.
Qu'est-ce que c'est?
C'est l'inscription des maladies in utero. Pendant la grossesse, certaines pathologies vont s'inscrire pendant la grossesse. Alors, si vous avez une maman qui mange mal, mais on va dire simplement, pas forcément obèse, mais qui mange mal, qui se nourrit mal, tout ce qu'elle va produire au travers de son microbiote notamment, tout à l'heure on a dit qu'il y avait des informations qui remontaient au cerveau qui étaient erronées, là c'est les métabolites que la maman va passer à son bébé qui vont être de moins bonne qualité. Si elle mange mal, son microbiote va être moins bien. Comme c'est son microbiote qui produit les métabolites, elle va passer à son bébé des métabolites, des informations de moins bonne qualité. Alors ça peut, cette programmation fœtale, ça peut concerner un organe, par exemple, qui va moins bien se développer. Donc ça va pas se voir, c'est pas forcément visible tout de suite, mais avec le temps, cet organe va décliner plus vite. Et donc, d'accord, vous allez avoir, si c'est le pancréas, par exemple, au lieu de décliner comme tout le monde avec la vieillesse, il va décliner plus tôt. Et donc, vous allez pouvoir déclencher un diabète ou avoir des phénomènes d'obésité. Donc, il faut savoir qu'il y a une programmation fœtale des maladies. Donc, c'est très important, la nutrition de la maman. Ça, c'est une chose.
Vous auriez dû me le dire avant.
Ouais. Alors, attention de ne pas culpabiliser aussi. Hein. Bah oui, ça, c'est très important. Parce que c'est ça, on vit dans une société qui juge terriblement, qui est pleine. Donc là, c'est vrai que c'est des phénomènes qui existent, qui sont bien décrits et qui sont encore à développer en termes de connaissances de tout ça. Mais il faut sortir de ces culpabilisations, de tout ça. Il y a des situations où effectivement ces événements se passent, mais par derrière le corps gère bien et on n'est pas forcément en situation de maladie. Par contre, quand on est en situation de maladie, le moindre petit écart, il vous met en danger. C'est pas que ce soit une faute, mais comme un diabétique, il faut faire attention. Alors ça, c'est le parallèle, il est très intéressant avec le diabète. Pour ceux qui connaissent pas, donc le diabète, hein, c'est quand on mange du sucre, son corps ne sait pas gérer, et donc il y a des taux de sucre très élevés, ce qui vous met en danger avec des cécités et une mort plus rapide. Enfin voilà, c'est une vraie maladie. Tout le monde sait que c'est une maladie et que c'est pas de sa faute. Personne va dire à un diabétique, tiens, tu as mangé trop de sucre quand tu étais petit ou pendant la grossesse, c'est très mal, c'est de ta faute si tu as du diabète. Personne le dit parce qu'on sait tous que c'est une maladie qui est installée, même le diabète de type 2.
D'accord.
Et en fait, l'obésité, c'est très semblable. Et pourtant, on culpabilise beaucoup, beaucoup.
Non, parce que c'est trop visuel, tout simplement.
C'est visuel, c'est vrai. Ça se voit et on...
Surtout à l'époque où on est obsédé par ça, quoi.
Et on sait aussi que c'est relié à une fragilité. Depuis toujours, hein, les Grecs disaient le colosse au pied d'argile. Ouais. On est vraiment, il y a une analyse morphométrique, hein, qui, on sait que ces personnes qui peuvent être impressionnants, grands et forts, mais en fait, ils sont plus fragiles. Déjà, il y avait cette prémonition pour, c'était une maladie en fait, c'était relié à des problématiques derrière. Donc la société, elle évolue. Par exemple, le cancer.
au XVIIIe siècle, notamment le cancer du sein, c'était pas une gloire. Hein. C'était
on a
c'était une honte, surtout parce que, par exemple, il y a toute l'anecdote d'Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV, qui est assez passionnante à mon sens, où elle avait un cancer du sein et elle se faisait enlever chaque jour des fragments parce qu'elle a une évolution pour pas que ça se voit, parce que c'était relié à une faute, c'était la corne du diable entre guillemets qui poussait, qui devenait visible liée à des fautes morales.
Bonjour l'imaginaire collectif.
Exactement, mais c'était les codes de l'époque et donc elle se faisait enlever chaque jour, donc c'était pas simple. Donc le cancer à l'époque c'était diabolisant. Aujourd'hui il est béatifiant et tant mieux parce que c'est une compassion qu'on a avec chacun. Ouais. Mais l'obésité elle est aujourd'hui diabolisante. C'est ta faute, t'as qu'à faire attention.
J'ai envie de vous dire même sur les bancs d'école. On pense franchement, moi, à mon époque, c'était
l'obésité infantile, elle a été multipliée par 4 en 10 ans. C'est impressionnant. C'est la grande alerte. Et aujourd'hui, alors, on vit une époque depuis une quinzaine d'années, quand même, qui est plus intelligente.
En fait, on a l'impression qu'on est sur deux poids, deux mesures. Parce que moi, au petit parc, avec mes filles, j'en parle tous les jours dans cette émission. C'est mon terrain d'exploration quotidien, mais c'est quand même assez efficace, mine de rien. Et on voit encore tellement de parents qui donnent plein de gâteaux, plein de... Vous voyez ?
C'est vrai, mais ça s'améliore plutôt... C'est
mais
un
en
peu
même
mieux.
Temps, on a l'impression que c'est quand
c'est-à-dire
même mieux.
Que depuis une dizaine d'années, je pense que il y a un travail qui est fait, une prise de conscience, l'activité physique, il y a des choses qui bougent, même si on est très très en retard. En France, plus de 50% de la population est en situation de sédentarité, et ça c'est très très grave. C'est-à-dire la sédentarité...
C'est un vrai sujet,
on peut en parler des heures aussi. Ouais. C'est-à-dire, c'est le fait de rester assis, sans bouger, pendant
enfermé.
7 heures par jour d'activité. Donc, ce n'est pas la nuit, bien sûr, mais c'est pendant sa journée. Eh bien, on le fait, personnellement, je m'efforce de ne pas le faire, mais ça va très, très vite. Et ça, la sédentarité, c'est lié à la mortalité. C'est directement relié, c'est responsable de 9% des morts... Enfin, les estimations. Donc, c'est
la pareil. Sédentarité.
Sédentarité, parce que ça va favoriser les maladies cardiovasculaires, etc. D'ailleurs, on peut parler de science parce que c'est passionnant.
Le corps n'est pas fait pour être arrêté, en fait.
Non,
c'est ça que vous
êtes c'est vraiment. Il faut le mouvement. C'est primordial. Ouais. Le mouvement dans le microbiote, le mouvement dans. C'est la dynamique, c'est la vie. Et c'est primordial. On le sait, il y a une expérience moi, qui a été une révélation pour moi, un travail de publication, c'est-à-dire qu'ils ont analysé un homme avec sa glycémie, donc une mesure biologique, pendant une journée de travail, et assis pendant 8 heures, et donc il avait des courbes très élevées, anormales, la nuit pareil, et cette même personne, donc il y a eu plusieurs hommes qui ont été analysés comme ça, hommes et femmes d'ailleurs, il avait, juste en se levant toutes les demi-heures, en faisant des exercices du tronc, de flexion, tout simple, pendant une à deux minutes, toutes les demi-heures, eh bien il normalisait sa courbe glycémique.
Incroyable.
Et la révolution, c'est qu'il y avait une mémoire, c'est-à-dire que la nuit, sa courbe glycémique, alors qu'il dormait de la même manière, entre l'activité physique la journée ou sans activité physique, eh bien, était modifié et normalisé. C'est-à-dire qu'il y a une mémoire du mouvement que vous faites dans la journée. La lutte contre la sédentarité, en fait, ça vous fait prendre une voie ou une autre physiologique.
D'où le fait que quand on a l'impression d'être beaucoup sorti dehors la journée, comme par hasard, le sommeil, la nuit se passe mieux.
Alors,
pour nos enfants, c'est comme ça que ça marche, je vous le garantis que c'est
vrai.
Mais
c'est sûr, mais en tous les cas, d'avoir une activité physique, mais c'est pas faire du sport à outrance, c'est simplement de
marcher,
de bouger, d'avoir des mouvements, de faire bouger ses muscles. Ouais. Les théories qu'on a pour le moment, mais il y a encore plein de mécanismes, c'est surtout le flux sanguin, c'est-à-dire que vous savez, quand vous êtes assis, vous avez 60% de votre sang qui est dans les jambes. Donc le cœur doit forcer dessus, et il y a toute une cinétique, une dynamique de votre flux sanguin qui est modifié grâce au fait de marcher, de se lever régulièrement. Donc, toutes les demi-heures, levez-vous. Là, j'espère qu'on va pouvoir le faire.
Oui.
Il faut se lever, faire des petits mouvements pendant une minute.
4 minutes.
Et voilà, parfait.
Patrick Coulier, le microbiote et le mouvement, il se modifie.
Oui, exactement.
C'est intéressant, vous êtes
d'accord
avec ça.
Bien sûr, tout à fait. Il n'y a aucun problème. Ça équilibre le microbiote. L'équilibre, c'est très fragile pour le microbiote. Donc, voilà. C'est un équilibre instable. Hein. L'équilibre du microbiote, il ne faut pas voir ça statique. Hein. C'est pareil. C'est un peu comme un funambule de l'extrême. Vous savez, il est entre deux immeubles ou deux montagnes. Il est sans arrêt comme ça. Quoi. Il est en équilibre, mais il bouge tout le temps. Donc, le mouvement, la marche, l'activité physique, alors régulière, douce et régulière, c'est pas du sport. Le sport, c'est plutôt inflammatoire et pas très bon pour le microbiote, donc le sport intensif.
Ah bon ?
Ah oui, le sport intensif.
Pourquoi ? Qu'est-ce que ça fait au microbiote ?
Ça atteint les muqueuses. Surtout.
C'est violent.
Donc, ça rend les muqueuses plus perméables. Donc, vous avez plus de toxiques qui vont passer à travers la muqueuse. Donc, c'est de l'inflammation. Donc,
alors, qu'est-ce que vous appelez d'un sport brutalisant ? Enfin, ça peut être tout ce qui a haute dose.
Ça dépend de l'âge déjà. C'est régulier déjà. Même si vous êtes, vous n'êtes pas un grand sportif, mais vous faites pas de sport toute l'année. Vous avez un léger surpoids et les vacances, vous vous mettez à faire vos 5 ou 10 kilomètres là. Voilà. Si vous êtes un peu âgé, ça c'est pas bon. Ça fait de l'inflammation. Le sport, dès qu'on reprend en intensif, c'est de l'inflammation.
C'est intéressant.
Et l'inflammation, c'est mauvais pour tout, y compris pour le microbiote, mais pour tout.
Donc, si on revient à notre sujet, le
gras des obèses est très inflammé. Hein. C'est de l'inflammation.
Oui, c'est une maladie inflammatoire.
C'est une maladie inflammatoire.
La maladie obésité, il y a des éléments reliés à des mécanismes inflammatoires, hormonaux. Donc, c'est une autre des grandes causes. Hein, on l'a évoqué. Donc, le côté génétique de la maladie, le côté microbiotique qui est primordial. Et après, vous avez deux autres grandes causes. La première, c'est le trauma psychique. Hein, et ça, on le rappelle pas assez. Le trauma psychique, le trauma psychique, c'est pas juste la déprime ou des souffrances. C'est vraiment des événements qui ont traumatisé votre vie, comme un viol, par exemple, ou le décès. Il faut savoir que ces événements psychiques vont traumatiser et modifier toute votre physiologie. Donc ça, c'est pas seulement dans la tête. Donc ça ferait une émission aussi. On peut en parler longuement.
Mais on s'en fait beaucoup des émissions Quête de Sens. On va vous embaucher. Ouais. Bref, ça joue énormément, ça peut modifier, vous avez dit même, c'est fort quand même.
Oui, ça c'est prouvé. Hein, donc ça intervient, le trauma psychique va intervenir dans votre équilibre physiologique. Donc ça intervient sur le microbiote, sur les équilibres hormonaux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui
Et ça peut contaminer des générations plus tard ou pas ?
Alors oui, on le sait, le trauma psychique se transmet sans en avoir forcément conscience, via notamment l'épigénétisme. C'est un sujet immense aussi. C'est quand je parle de génétique, c'est ça surtout. Donc épigénétisme, c'est la transmission de l'acquis. C'est-à-dire qu'on peut transmettre ce qu'on a vécu via ces gènes en mettant comme des marque-pages. Hein. Souvent, moi, je le compare à ça, comme un marque-page dans un livre. On marque son génome, son livre génétique, enfin sa bibliothèque, parce que c'est immense, mais le gène qui est un livre, on met des petits marque-pages et qui peuvent être pas toujours transmis, mais qui peuvent l'être à ses enfants.
Mais pour le meilleur et pour le pire, c'est beau ce que vous avez dit tout à l'heure sur le musicien, par exemple, le pianiste ou le violoniste, enfin bref, ou le compositeur, par exemple, qui transmet une jolie partition, quoi, finalement.
Ah ouais, tout à fait. Voilà, et ça passe par l'épigénétisme, c'est-à-dire que un grand musicien, il va travailler, il va développer ses muscles, eh bien, ces éléments, il va les marquer sur son génome, il va mettre des marque-pages, et si ses enfants reçoivent les marque-pages, parce qu'il faut les recevoir, eh bien, ils iront 5-6 fois plus vite que lui pour apprendre. On le voit avec Internet. C'est-à-dire qu'on est tous stupéfaits. On est cette génération, on a connu un peu l'arrivée de vraiment l'informatique et des réseaux sociaux.
On est d'accord, oui.
Et donc, là, nos enfants, ils vont 10 fois plus vite que nous. Je n'osais pas le dire. Mais c'est vrai, c'est impressionnant. Et on se dit, mais comment ils font ? Mais en fait, parce que on a ciblé sur notre génome ces séquences-là qui ont été très importantes parce que ça nous a demandé beaucoup de travail et on les a transmis en priorité à nos enfants.
Alors, on devient un tout petit peu de notre sujet, mais ça nous aide à bien comprendre effectivement à quel point effectivement l'obésité peut se transmettre dessus. Alors, le surpoids, en fait, quand on dit qu'on en voit de plus en plus, là, il est question plus des personnes en surpoids. J'ai l'impression que c'est un peu ça qu'on est en train d'évoquer depuis le début de l'émission.
Alors, le surpoids, il évolue. Il évolue, mais pas si vite que ça. En France, il est plutôt stable. Par contre,
50% c'est quand même.
Voilà, il y a 50% de la population
énorme,
qui est en surpoids.
Énorme, mais c'est énorme, non? Ah oui,
mais
parce que c'est beaucoup
aux États-Unis,
quand même.
Ils sont à 50% d'obésité, c'est encore un autre,
on est à la marge du dessus,
niveau.
Voilà. Et on y va tout droit.
Et on y va tout droit, probablement, parce que l'obésité et les obésités sévères et morbides, donc les grandes obésités, elles augmentent très vite. Hein. C'est multiplié par 4 en 10 ans. Donc, vraiment, c'est alarmant. Parce que, probablement, qu'il y a des mécanismes de transmission épigénétique qui interviennent. Le microbiote intervient. Il y a énormément de facteurs qui favorisent cette transmission.
Body and Soul de Tony Bennett, en duo avec Amy Winehouse, tout de suite sur Radio Notre-Dame RCF. À tout de suite.
Mmh. My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
I spend my days ever hungering and wondering why it's me you're wrongin'. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul.
I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh.
Are you pretending it looks like the ending? Unless I could have one more chance to cry day.
My life a wreck you're making.
You know I'm yours, but just a taking.
I can't return myself to you, body and soul. Are you pretending it looks like the ending? Unless I can have one more chance to prove, dear.
My life a wreck you're making.
You know I'm yours for just the taking.
De retour dans cette émission Quête de sens, pourquoi l'obésité est-elle devenue la maladie du siècle? On en parle aujourd'hui avec mes deux spécialistes, mes deux invités du jour qui sont Guillaume Pourchet, chirurgien viscéral et digestif, qui a publié l'obésité, maladie du siècle, ni une faute, ni une fatalité. C'est ça qui est important à retenir.
Exactement.
Aux éditions XO, vous avez vu, j'ai bien écouté Guillaume Pourchet et Patrick Houllier, notre monsieur microbiote, docteur en pharmacie que vous êtes, spécialisé en écologie digestive, qui avait publié cet ouvrage, Maman, j'ai rétréci mon microbiote. Voilà, tout comprendre, quel microbiote allons-nous laisser à nos enfants? On est bien dans notre sujet chez LibriNova. Alors, c'est vrai qu'on l'évoquait juste là, Avec vous, Guillaume Pourchet, Patrick Collier, ça ne vous a pas étonné que je le sois, moi, devant ce constat que vous faites dans votre livre, Guillaume Pourchet, que l'héritage même collectif de la Seconde Guerre mondiale, le fait qu'on est une génération personnes ont manqué, c'est-à-dire on crevait de faim, en fait, notamment dans les camps de concentration, mais dans ce contexte de guerre, a laissé des traces, en fait. Hein, messieurs, c'est ça?
Oui, ça passe par l'épigénétisme, donc, c'est-à-dire qu'on va marquer son génome des événements qu'on a vécu dans son vivant.
Ouais.
Et donc forcément on va activer, quand on vit des situations de famine par exemple sur plusieurs générations, on va vraiment marquer son génome là-dessus, et sa descendance va mettre en réserve plus, pour simplifier. Hein. Donc ça, c'est une des causes de cette maladie obésité, puisque l'humanité a plutôt vécu dans la famine que dans la prodigalité depuis des millénaires et des siècles, donc en tous les cas pour la plus grande majorité de la population. Donc ça, c'est un phénomène qui est là,
Et heureusement, parce qu'on parle d'obésité comme maladie du siècle, c'est sûr, mais c'est finalement mieux que la famine. C'est-à-dire que l'obésité, elle est quand même probablement aussi reliée au fait que on est un petit peu sorti de ces grandes famines et ouais. grandes difficultés. C'est-à-dire qu'on a accès à une nourriture malheureusement pas toujours de bonne qualité, ouais. donc il y a beaucoup de choses à faire.
Mais varié quand même.
Mais c'est quand même une étape supplémentaire. C'est-à-dire que l'accès à la normalité alimentaire ouais. fait que ça révèle cette maladie pour une grande partie de la population qui était plutôt prête à gérer des famines. C'est un résumé un petit peu de la situation, mais c'est à mon sens très vrai.
Mmh. Sur oui, le microbiote, on peut, parce que je suis un peu monomaniaque du microbiote, si vous avez bien compris.
On a bien compris.
En fait, quand on est dans une situation de guerre où il y a peu à manger, en ouais. fait, le microbiote, c'est aussi, et qui est aussi capable d'extraire plus de calories d'une
c'est
même alimentation.
C'est extraordinaire.
Donc, si vous mangez peu, il va extraire plus d'énergie de proportionnellement
c'est bien.
À si vous mangez gras. Bah, c'est bien ou c'est pas bien, ça dépend. Si vous mangez, si vous faites un gros repas un jour, c'est une fête, il va extraire moins d'énergie parce que vous avez trop mangé.
D'accord.
Il va envoyer la réponse de satiété, mais il va moins extraire. Donc une maman qui est enceinte et dans une situation de dénutrition, elle va, son microbiote va extraire plus d'énergie.
D'accord.
Mais ça va du coup lui donner un microbiote de type j'extrais beaucoup d'énergie. Et la maman, au moment de la naissance, va transmettre ce qu'on appelle une signature microbiotique à son bébé. C'est-à-dire que le microbiote du bébé, il est, pour beaucoup, le microbiote de la maman. Et donc,
d'accord.
cet enfant va avoir un microbiote à signature obésité, peut-être, ou en tout cas surpoids, en tout cas consommation d'énergie. Et donc, ce bébé, il va extraire plus d'énergie de l'alimentation qu'on va lui donner. Et il y a un petit paradoxe, c'est que des mamans qui ont été, à un moment donné, dénutries, peuvent donner naissance à des gros bébés parce qu'elles ont peu mangé, donc elles ont extrait beaucoup d'énergie. Et puis si la famine s'arrête, elles se remettent à beaucoup manger, elles vont continuer à extraire beaucoup d'énergie d'une alimentation qui sera devenue normale et donc elles vont faire des gros bébés. Donc il y a aussi cette notion liée au microbiote et à l'extraction énergétique des microbiotes, ce qu'on trouve d'ailleurs chez les personnes obèses où ils ont tendance à extraire plus d'énergie de l'alimentation.
C'est pour ça qu'il faut déculpabiliser cette
oui,
population.
Alors, absolument.
Ça, c'est très, très important. Et moi, c'est un de mes combats de soignants. Il faut sortir de ces schémas. C'est de votre faute. T'as qu'à manger plus. T'as qu'à faire du sport. Vraiment, c'est une tendance qu'on a peut-être tous en soi. Et c'est des mécanismes de défense qui nous ont sauvés.
On l'a tous en soi. Cette tendance quand même.
Probablement.
Je suis d'accord. Hein.
Si vous faites mal, vous prenez du poids. Après, elle est plus ou moins développée. Hein. C'est là où ça devient une maladie. C'est-à-dire que des personnes en mangeant très peu. Hein. Par exemple, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de personnes souffrant de maladie obésité qui sont carencées, hein, qui ont des carences. Et c'est même très fréquent sur beaucoup de vitamines et autres.
Pourquoi
Justement parce que, en fait, c'est pas parce qu'ils mangent trop seulement le problème. C'est pas qu'ils apportent trop, c'est qu'ils ont ce dérèglement qui fait qu'ils mettent beaucoup en réserve.
D'accord.
En prévision, peut-être d'événements, de souffrances. Alors, c'est assez positif, finalement, pour l'humanité. On rentre dans une période plutôt positive en termes de d'alimentation et d'accès à l'alimentation, et tant mieux. Mais attention, il faut la canaliser, la réguler. Il faut aussi soigner cette maladie, parce que là, elle est. Sachez que seulement 4% des personnes qui sont en situation ouais. de maladie, donc des grandes obésités, sont prises en charge.
Pourquoi ? Parce qu'elles osent pas.
Parce que c'est un tabou. C'est un tabou.
Ouais.
C'est une honte.
Ouais.
On a peur. Oh là là, tu vas pas te faire opérer quand même. Fais un petit régime, fais attention. Et
le fameux j'ai tout essayé.
Ouais.
Et vous l'entendez tout le temps.
Ben oui, et puis surtout on le plaque à plein de personnes qui sont en situation de souffrance. Donc la culpabilisation qu'on a autour de cette pathologie, elle est à combattre absolument. C'est pas rien de se faire opérer. Il s'est réservé à des situations quand même assez graves. C'est aussi, ça nécessite une prise en charge bien construite. Hein. Il faut être suivi. Enfin, ça se fait pas comme ça. C'est pas une solution rapide.
Et on peut se faire opérer en étant en surpoids ? Ou c'est que réservé
non,
à l'obésité ?
Non, c'est réservé. Il y a des critères alors, de remboursement en France et puis c'est des recommandations internationales. Donc c'est à partir, les critères sont ceux au-dessus de 35 d'indice de masse corporelle.
D'accord.
Avec des pathologies liées à l'obésité. Donc, elles sont très vastes, hein, de l'apnée du sommeil au diabète, à l'arthrose, à des problèmes de foie, hein, la maladie du foie, la stéatose. Ça, c'est une anecdote assez passionnante, hein, parce que depuis maintenant une quinzaine d'années, la première cause de cirrhose dans le monde, c'est plus l'alcool. C'est l'obésité. Donc, vous voyez, c'est
les sodas.
Ben oui, et la maladie du
soda. Parce qu'après, c'est bien gentil de se faire opérer, mais il faut mieux manger aussi, non? J'imagine quand même.
Alors,
quand même.
Une opération, effectivement, ça suffit pas à elle seule. Hein. C'est pas le coup de baguette magique. Donc ça, c'est d'où la préparation avant et le suivi après.
D'accord.
Donc, se faire opérer, c'est souvent, je le compare, c'est une sorte de remise à zéro, si vous voulez, de fonctionnement. Et l'opération, elle paraît violente, agressive, ce qui est quand même, c'est pas rien de se faire opérer. C'est courageux de se faire opérer. Ça, il faut le redire. Moi, j'ai toute mon admiration pour les patients et non pas, c'est pas une solution de facilité. Eh bien, se faire opérer, ça suffit pas parce qu'il faut reconstruire le bien manger, l'activité physique, le bon sommeil. On n'en parle pas assez.
Ouais.
Et
Que ça faisait grossir, ça fait prendre du poids.
Bien sûr, ça fait prendre du poids de mal dormir.
On a faim, ça donne faim, c'est ça?
Alors, c'est probablement plus complexe que ça, mais c'est le manque de sommeil. Il y a pas mal de régulations qui se font pendant le sommeil, notamment au niveau cérébral, mais pas seulement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à explorer sur le sommeil encore et qui sont directement reliées. Hein,
est-ce que l'impact psychique... Oui, allez-y. Parce que
juste, c'était pour rebondir, confirmer la partie culpabilité. Il existe un mécanisme qui s'appelle, enfin que moi j'appelle en tout cas la résistance microbiotique, qui correspond un peu à la résistance à l'insuline, c'est-à-dire que les organes vont moins réagir à l'insuline. Je vous ai dit tout à l'heure que le microbiote était en équilibre instable, comme ça. On peut imaginer une boule dans une gouttière, par exemple. Donc elle va osciller de déséquilibre à équilibre, comme ça, ça va. À un moment donné, cette bille, elle peut être tellement déséquilibrée qu'elle passe dans une autre gouttière. Et cette autre gouttière, c'est un autre équilibre, et c'est un équilibre qui est pathologique, en fait. Et ça se trouve souvent chez les personnes obèses, et ça fait que la personne, vous pouvez faire ce que vous voulez au niveau nutritionnel, donner des fibres, de la bonne alimentation, de toute façon, ce microbiote, il est équilibré de façon pathologique, et vous ne pourrez jamais rectifier ce microbiote.
Donc quand certains disent qu'elles ont tout fait et que ça ne change rien, c'est tout à fait juste.
C'est tout à fait juste.
Ah, oui,
et on ne peut pas culpabiliser la personne, c'est pas de sa faute.
C'est une maladie. Il faut le redire, c'est une maladie. Et aujourd'hui...
C'est vrai qu'on l'entend jamais. Hein.
Bah, c'est une... Ou presque
le
jamais.
C'est un des premiers
à le dire. C'est un des
seuls à le dire, en tout cas.
Mais il faut absolument crier.
Ouais.
Et c'est pas une faute. Et ça, c'est primordial. Et alors après, bien sûr, il y a un niveau de gravité dans la maladie. Il y a des situations, le surpoids ou les obésités de stade 1. Là, on a une chance en corrigeant les facteurs aggravants. Donc, on a évoqué tout à l'heure de l'alimentation, de l'activité physique, du sommeil, de la discrimination aussi. Le regard des autres et la gestion des émotions.
J'ai un enfant qui est obèse. Qu'est-ce que je fais, Patrick Goulier? Qu'est-ce que je fais ? Pour commencer, qu'est-ce que je fais ?
C'est difficile. Il y a 50% des enfants obèses qui deviennent obèses. Donc, ça, à la fois, ça veut dire qu'il y a des solutions. Il faut s'en occuper à tous les points de vue, alimentaire, psychologique, le sport, et puis essayer de rester, de ne pas aller trop loin. On a dit qu'il y avait plusieurs stades dans l'obésité. Essayer de contrôler au maximum pour qu'il n'aille pas dans des obésités sévères. Après, une fois qu'on a fait le psy, l'alimentation, l'amour
sport.
Qu'on peut lui donner, le sport, ne pas le culpabiliser,
par exemple,
c'est
la première étape,
c'est
ça.
Certainement
le plus important. Que...
manger, ça peut les sauver, de les prendre en charge, les bébés, voyez ce que je veux dire?
Alors,
parce que ça
les
peut
bébés...
préserver un futur adulte de l'obésité, ou pas?
C'est assez complexe, parce que au stade du bébé, hein, des premières années de vie, c'est difficile. Je pense qu'on peut pas parler vraiment, même s'il y a des enfants, des bébés qui sont très très gros.
Et puis même des jeunes enfants, on en voit. Hein,
mais bien sûr.
De 2-3 ans,
donc,
qui ont l'air
c'est,
trop gros.
C'est là où c'est complexe et il faut le faire avec son pédiatre. Hein, il faut être entouré, c'est pas tout seul. En tous les cas, il faut surtout pas culpabiliser. Il faut canaliser des comportements qui peuvent devenir addictifs parce que effectivement, quand vous dites fais pas ci, fais du sport, là il va faire tout l'inverse. Donc c'est assez terrible.
C'est complexe.
C'est très complexe.
Délicat.
Et très délicat, surtout chez les enfants parce qu'il y a ils sont en construction psychique avec des. Donc c'est des situations, il faut se faire aider par son pédiatre, par des soignants. Après, il y a plusieurs niveaux de gravité. Il faut pas non plus que la maman dise j'ai l'impression qu'il est gros. ou qu'il est un peu trop gros, je vais lui faire. Donc, il y a des critères médicaux, donc il faut consulter, voir ça avec son pédiatre, qui va vous dire oui, là, il y a une situation d'obésité, ben non, vous inquiétez pas, c'est normal, ça va se corriger avec l'adolescence.
D'accord. Voilà. Donc, et Benchet, est-ce qu'il faut pas, certains de vos confrères disent, plutôt psy, disent que il faut surtout jamais parler de régime en famille, de ta grossité grosse,
c'est très important. Hein, le régime, c'est une horreur, ça fait grossir.
Chez nous, c'est omniprésent.
Et c'est très important parce que, en fait, en parlant de régime, on va réduire des apports sur certains produits alors qu'il ne faut pas. Donc, faire un régime, on le sait aujourd'hui, c'est dangereux. Parce que, alors bien sûr, on maigrit au début, il y a un impact direct, mais sur une période de 6 mois, 1 an, 2 ans, en fait, on va aggraver la maladie, si vous voulez. S'il y a une maladie, on va monter un niveau d'obésité encore supérieur, peut-être un peu à cause du régime. Donc ça, le régime, c'est un point. Alors, régime, chacun l'entend comme il veut.
Non, c'est rééquilibrage alimentaire qui est très à la
mode. Là, c'est important.
C'est autre chose.
Mais effectivement, le fait de faire de la restriction sur certains aliments, de s'empêcher de manger des sucres, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas conseiller et qu'il n'y a pas de rationnel médical. Au contraire, ça semble aggraver la problématique. Donc, non, le bien manger, ça, c'est important. La qualité des circuits courts, les produits transformés qu'il faut essayer de bannir, les boissons trop sucrées. Attention aux édulcorants, c'est pire que du sucre, probablement, l'édulcorant, aujourd'hui. Donc, les coca zéro, enfin, je ne vais pas citer des trucs, mais tous les zéros, désolé, tous les zéros, c'est probablement plus dangereux que du vrai sucre.
C'est vrai?
Oui, parce qu'en fait, c'est relié à l'obésité. Avec les édulcorants et tout fort, sont probablement plus dangereux que le vrai sucre, que notre corps sait gérer depuis des millénaires, même si c'est pas bon de manger trop sucré, et ben c'est probablement pire d'avoir ces nouveaux produits chimiques qui vont déclencher des cascades de type sucre et qui vont vous dérégler le microbiote, qui vont dérégler les sécrétions hormonales, d'insuline et autres. Et donc, c'est même en relation avec certains cancers. Ça a été vendu, marketé comme positif pour la santé et c'est vraiment une horreur. Donc, prenez du vrai coca pour reprendre ce truc plutôt que du faux ou des choses. Donc, c'est des petites choses bêtes, mais voilà.
Mais qui peuvent sauver une immunité aussi avec l'hiver là. Bon, bref, c'est un autre sujet, mais il y en a beaucoup d'autres sujets aujourd'hui.
Oui, il y a beaucoup de
sujets. Pour terminer, Patrick Collier.
Je voulais dire que sur le sucre, j'ai entendu une étude où un enfant de 8 ans aujourd'hui a mangé autant de sucre pendant ses 8 ans que son grand-père pendant toute sa vie.
Wow.
Donc les édulcorants, le sucre. Ce qu'il faut peut-être raisonner, c'est en termes d'exposome, c'est-à-dire à quoi on est exposé dans notre vie. Parce que nos grands-parents, ils avaient quelques toxiques comme ci, comme ça. Nous, on en a énormément. La pollution, tous les additifs de l'alimentation ultra-transformée.
On mange du bon et du vrai. Je n'ai pas dit BIO, j'ai dit du bon et du vrai.
Oui, oui.
Merci les amis. Guillaume Pourchet, l'obésité maladie du siècle, une faute, une fatalité, c'est XO. Et Patrick Collier, maman, j'ai rétréci mon microbiote chez Librinova. Merci les amis. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Merci à vous pour votre accueil. Merci.
À très bientôt.
Cette enquête de sens présentée par Marie-Ange de Montesquieu. Belle fin d'après-midi à tous à l'écoute de RCF.
Simon Tétrault.
Bonjour Florence Gros.
Bonjour Simon.
Alors je rappelle que vous êtes directrice de la Fondation OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées, et vous nous parlez de la loi fin de vie.
Fin septembre, Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, a exprimé son souhait de réexaminer, avant la fin de l'année, le projet de loi pour la fin de vie qui avait été interrompu, vous vous souvenez, par la dissolution de l'Assemblée en juin dernier. Puis début octobre, le Premier ministre a précisé que le travail parlementaire reprendrait sur la base du texte amendé et voté avant la dissolution. Michel Barnier a dit qu'il voulait faire des choses sérieusement, avec gravité, car cela touche à la conscience. Il veut entendre les familles, respecter les soignants. Mais comment rester confiant quand le Premier ministre dit qu'il veut gagner du temps et que l'ordre des priorités n'est pas partagée par tous. Pour Claire Fourcade, présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, la vraie priorité est d'améliorer l'accès aux soins, notamment ceux qui sont en fin de vie. Après la dissolution, une parenthèse nous a été offerte. Celle-ci nous a donné un espace pour que s'expriment des témoignages et fortifier notre vigilance.
À quel témoignage pensez-vous ?
Olivier Goy, par exemple, chef d'entreprise et atteint de la maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative mortelle qui se traduit par une paralysie progressive des muscles. Après le succès du film Invincible, dont il était le principal protagoniste, il vient d'écrire un livre avec Anne Fulda, journaliste, Derrière le sourire, le combat d'une vie. C'est une ode à la vie. C'est le témoignage d'un combattant qui veut mieux faire accepter le handicap. Olivier n'a pas perdu ses capacités intellectuelles, sa façon de regarder la mort paisiblement. Son humour, sa soif de vivre, interpelle et nous invite à aimer la vie avec ses fêlures, y compris lorsque la maladie est bien présente. Son livre s'adresse aux malades, bien sûr, mais aussi aux aidants. Ils sont souvent épuisés et souffrent de voir leurs proches diminuer dans leur capacité jusqu'à douter parfois de la légitimité de leur vie.
Vous voulez dire, Florence, que la question soulevée par ce texte de loi est celle de la légitimité, de la valeur de certaines vies?
Ah oui, Simon. Et c'est aussi ce que nous dit Claire Dirck, également atteinte d'une maladie neurodégénérative. Elle partage avec Olivier cette soif de vie immense et ce goût des autres. Elle est belge de nationalité et jeune mariée. Dans un livre qui vient de paraître, L'amour coûte que coûte, elle revient sur l'expérience tragique de son père. Atteint de la même maladie qu'elle, il a demandé et obtenu l'euthanasie. Claire a alors 30 ans. Comment réagir à cela? Comment ne pas se laisser envahir par la souffrance et le découragement? Comment ne pas céder à la même tentation de tout arrêter? Alors dans sa recherche de réponses, Claire rencontre Dieu qui depuis la relève à chaque fois qu'elle tombe. Aujourd'hui, elle parie sur la vie et veut témoigner auprès des personnes qui se sentent un poids pour la société. Non, la maladie n'empêche pas de donner et de recevoir. Non, l'euthanasie n'est pas un acte d'amour. Cette confusion est même malsaine. La toute-puissance ne laisse aucune place à l'amour. Au contraire, c'est au cœur de nos fragilités que naît notre capacité à aimer et à nous laisser aimer. Ne serait-ce donc pas là que réside la valeur de nos vies, au cœur même de nos fragilités?
Merci Florence Gros. Je rappelle, vous êtes directrice de la Fondation OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées.
Ce jour dans l'histoire.
Aujourd'hui, nous sommes le 22 octobre. 1941, le 20 octobre, en plein centre de Nantes, un militant communiste abat le commandant allemand de la ville.
Les obsèques du lieutenant-colonel Hotz sont célébrées aujourd'hui à Nantes en présence d'une foule émue qui, par son attitude recueillie, montre qu'elle a compris l'appel du maréchal Pétain demandant aux Français de se dresser contre les complots de l'étranger. Et notre chef ajoutait « Je vous jette ce cri d'une voix brisée. Ne laissez plus faire de mal à la France. »
Document des actualités cinématographiques sous contrôle allemand. En représailles, les Allemands décident d'exécuter le 22 octobre 27 otages à Châteaubriand. Ils s'appuient sur une liste fournie par le secrétaire d'État à l'intérieur, Pierre Pucheux. Cette histoire des otages marquera très fortement la suite de l'occupation en France. Au Japon, le 22 octobre 2019, Naruhito devient le 126e empereur, succédant à son père, Akihito.
C'est une cérémonie somptueuse au palais impérial de Tokyo. L'empereur Naruhito vient donc de prononcer son intronisation. Il a déclaré, je cite, « Je respecterai les principes de la Constitution et mon rôle de garant de l'union du peuple japonais ». Une cérémonie toujours aussi solennelle comme seuls les Japonais savent les faire. Il y a 2000 personnes venues de 180 pays.
Avec la proclamation de ce nouvel empereur, le Japon est entré dans l'ère du Reiwa, ou ère de la belle harmonie. 22 octobre 1962, le président américain John Kennedy intervient à la télévision et lance un ultimatum aux Soviétiques. L'affaire des missiles de Cuba venait de débuter.
Dans un discours imprévu, le président Kennedy dénonçait le péril. Ces bases, disait-il, ne peuvent avoir d'autre raison que de fournir une force de frappe nucléaire dirigée contre nous.
Américains et Soviétiques vont négocier secrètement, les Russes abandonnant leur implantation de missiles nucléaires à Cuba contre le retrait de ceux des Américains en Turquie.
Ce jour dans l'histoire.
Côté culture, disparaissait le 22 octobre 1987 l'acteur et ancien catcheur Lino Ventura. Il avait débuté sa carrière en 1954 dans le film « Touchez pas au Grisby » aux côtés de Jean Gabin. Il est aussi l'un des tontons flingueurs en 1963. Et puis naissait le 22 octobre 1921, à Sète dans l'Hérault, Georges Brassens, auteur, compositeur et interprète. Il est l'auteur de plus de 200 chansons. Il meurt en 1981.
Elle est à toi, cette chanson. Toi, l'Auvergnat qui, sans façon, m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps.
Et dans belle fin d'après-midi à l'écoute de RCF. Dans un instant à 18h, vous retrouverez le journal de Radio Vatican.
Sur RCF, suivez l'actualité internationale grâce au journal de Radio Vatican. Du lundi au vendredi, la rédaction francophone vous donne rendez-vous à 8h30, 13h et 18h, ainsi que le samedi à 18h. Avec Radio Vatican sur RCF, restez connectés au monde.
Le 5 novembre, les États-Unis feront face à un choix crucial, marqué par un véritable choc des valeurs. D'un côté, Donald Trump incarne la fermeté et l'exclusion. De l'autre, Kamala Harris défend l'inclusion et la démocratie. Cette élection transcende le traditionnel duel républicain-démocrate. Elle expose une fracture profonde au sein de la société américaine. Pendant deux semaines, La Croix explore cette Amérique divisée à travers des reportages inédits et des analyses détaillées. Découvrez notre grand dossier sur cette confrontation des valeurs et l'avenir du pays en vente dès maintenant chez votre marchand de journaux.